Précisément 6 heures. Bon réveil.
La quasi-totalité des habitants auront à moins de 20 minutes de chez eux la possibilité d'avoir un centre de test. Et on s'est dit que ça, c'était la bonne échelle.
L'Auvergne-Rhône-Alpes lance aujourd'hui sa campagne massive de tests Covid. Plus de 1300 centres de dépistage répartis sur toute la région, se félicite son président, Laurent Wauquiez. L'année 2020 s'achève sur un bilan économique catastrophique. Mais bonne nouvelle, l'INSEE prévoit un rebond l'année prochaine. Dans ce journal, la guerre du poisson dans les eaux de la Manche à l'approche d'un Brexit sans accord commercial. Côté britannique, les pêcheurs s'organisent pour ne plus dépendre des exportations. Et puis le procès fleuve des attentats de janvier 2015. On reviendra sur plus de 3 mois d'audience à la fin de ce journal. Le verdict est attendu cet après-midi.
À suivre la page des sports avec Jérôme Lacroix. Les handballeuses françaises sont en demi-finale de l'Euro. Et puis dans un quart d'heure, les 50 ans d'un conte mythique, Peau d'âne de Jacques Demy, un demi-siècle. Et mon invité inattendu en fut la narratrice dans une version pour le théâtre. Elle est aussi une grande figure de la télévision. Elle sera avec nous à 6h15. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
2 jours après Le Havre et Charleville-Mézières, c'est aujourd'hui une région tout entière qui lance la plus grande campagne de dépistage Covid en France. L'Auvergne-Rhône-Alpes, l'une des plus touchées par la deuxième vague. Pendant une semaine, les habitants pourront se faire tester sur la base du volontariat avec un objectif, éviter de contaminer ses proches pendant les fêtes. Jean-Luc Boujon.
Au total, ce sont plus de 1300 centres temporaires qui vont être installés à partir d'aujourd'hui. On en trouvera dans 500 lycées publics et privés de la région, mais aussi dans 71 entreprises comme Seb ou Valeo, 37 grandes surfaces ou bien 16 gares. L'idée, c'est d'aller là où sont les habitants, explique Laurent Wauquiez, le président de la région.
La quasi-totalité des habitants auront à moins de 20 minutes de chez eux la possibilité d'avoir un centre de test. Et on s'est dit que ça, c'était la bonne échelle.
2 millions de tests antigéniques ont été commandés, plus des tests PCR. Médecins, pharmaciens, infirmiers de toute la région seront mobilisés, explique Lucien Baraza, le responsable des infirmiers.
Je pense qu'on sera 3000. On sera dans les lieux dédiés qui ont été déterminés par la région et on sera dans nos propres villages.
C'est ainsi que les tests seront possibles même dans les petites communes comme à Rémusat. 365 habitants dans la Drôme, explique son maire Olivier Salin.
Ce centre sera à côté de la place du marché. Nous avons fait appel donc aux bénévoles pour la partie administrative, les sapeurs-pompiers aussi. Et nous avons après les professionnels de santé, puisque c'est eux les testeurs, 2 pharmaciens, le médecin de la commune et nous avons 2 infirmiers ainsi qu'un médecin qui est retraité.
Dans le Cantal, on a choisi une autre option. Pas de centre fixe, mais 40 cars qui sillonneront durant une semaine ce département rural. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Voilà pour le dépistage. À propos du vaccin, le gouvernement présente aujourd'hui sa stratégie de vaccination à l'Assemblée nationale avec un second débat. Demain, ce sera au Sénat.
La crise du Covid et son impact lourd sur l'économie, à quoi ressemblera le début de l'année prochaine?
Dans sa note de conjoncture publiée hier soir, l'INSEE confirme sa prévision d'un plongeon du PIB de 9% sur l'ensemble de l'année 2020. Mais l'horizon semble s'éclaircir, Olivier Samin, puisque l'Institut entrevoit un rebond sur le premier semestre de 2021.
Oui, avec 2 confinements entrecoupés par une reprise l'été dernier, 2020 aura été l'année de toutes les secousses, mais avec 2021 devrait arriver le temps des remèdes. Voilà en tout cas le pronostic de l'INSEE qui anticipe un rebond de 3% de l'activité au premier trimestre prochain, suivi d'un autre rebond, 2%, au deuxième trimestre. À tel point qu'au début de l'été prochain, l'activité ne serait plus que 3% sous son niveau d'avant-crise. Ça, dit l'INSEE, c'est dans l'hypothèse où l'épidémie serait maîtrisée. L'effet vaccin redonnerait de l'allant à l'économie, tout comme les mesures du plan de relance. Mais prudent, les auteurs n'écartent pas certains aléas. Le maintien notamment de mesures de restriction si le virus repart, et un Brexit sans accord. En matière d'emploi, l'analyse de l'INSEE s'arrête à la fin de cette année, avec un taux de chômage qui redescendrait à 8% de la population active. Ça surprend, mais l'explication tient au fait qu'avec le deuxième confinement, comme lors du premier d'ailleurs, de nombreux demandeurs d'emploi n'ont pas pu poursuivre leurs recherches et ne sont donc plus considérés comme chômeurs, ce qui ne les empêche pas d'apparaître dans ce que les économistes appellent le halo du chômage.
Des informations d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Alors que la France a commencé à se déconfiner hier, laissant place à un couvre-feu de 20h à 6h du matin, l'Allemagne referme aujourd'hui ses commerces non essentiels et ses écoles pour tenter de freiner l'épidémie. Et puis à Londres, fermeture également des pubs, des restaurants et des musées à partir de ce mercredi.
On va rester au Royaume-Uni où les pêcheurs tentent de s'organiser à la proche d'un no deal.
La pêche, on le sait, qui est l'un des plus gros points de tension entre Londres et Bruxelles. Toujours pas d'accord commercial, ce qui implique de grosses répercussions d'un côté de la Manche comme de l'autre. Notre envoyé spécial, Johanna Chabas, s'est rendu à Hastings, où une coopérative de chalutiers a décidé de changer de stratégie pour ne plus dépendre des exportations.
On a des grondins, ici des raies, tout part en Belgique.
200 kilos de poissons récupérés par un routier qui longe la côte et ses ports jusqu'à Douvres. La coopérative ici exporte 70% de ses prises vers l'Union européenne. Mais avec le Brexit, les pêcheurs craignent des blocus à Calais et veulent donc se tourner davantage vers le marché britannique, comme l'explique Marc.
On essaye de vendre plus de poissons dans ce pays. On espère inverser la tendance et donc que 90% de nos poissons soient vendus ici et que 10% soient exportés à l'étranger. C'est comme ça qu'on voit la suite.
Mais il reste un problème. Oui, les Britanniques exportent énormément, mais importent tout autant. Ils raffolent par exemple du cabillaud norvégien pour leurs fameux fish and chips. Alors James, chargé de la vente, doit faire la promotion du poisson britannique.
Il faut changer les habitudes alimentaires. Ça peut passer par des modes lancées par des restaurants cotés, ou alors par les médias, la télé. Évidemment, les restaurants et le secteur hôtelier sont normalement de gros acheteurs.
Pour trouver plus de clients, son entreprise a créé un site qui permet aux particuliers de commander directement leurs poissons et de se faire livrer chez eux. Hastings, Johanna Chabas, Europe 1.
En France, ce séisme politique à Marseille, après moins de 6 mois passés sur son fauteuil de maire, Michel Rubirola a annoncé sa démission. C'est son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan, qui prendra sa place.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Il est 6h08, la suite de votre journal avec Sophie Echen.
Et lors du verdict au procès des attentats de janvier 2015, un procès hystérique et inédit, filmé pour les archives, qui s'est ouvert le 2 septembre dernier et qui a été marqué par des moments forts, le film de plus de 3 mois d'audience avec Gladys Laffitte.
Un procès marqué dès le début par l'horreur. Celles des images du carnage de Charlie Hebdo projetées à l'audience ont tétanisé la salle. L'horreur des mots ensuite ceux des survivants, parfois en larmes, mais toujours dignes lorsqu'ils ont raconté leur difficile reconstruction. Et puis les accusés ont dû s'expliquer, ignorant tout du projet des terroristes, ont-ils dit. Parfois confus, parfois bruyants, comme Ali Rizapolat, le présumé bras droit d'Amédi Coulibaly. Ses coups de colère ont marqué l'audience, agacé la cour, qui l'a même expulsé. Il a aussi contracté le Covid, comme deux de ses co-accusés. Résultat, procès suspendu pendant un mois, du jamais vu. À marche forcée et finalement sans visioconférence, l'audience a repris avec les plaidoiries des avocats des parties civiles. Celle de Richard Malka, l'avocat historique de Charlie Hebdo, dont les mots résonnent encore. Charlie est devenu une idée, Charlie vivra. Les peines demandées, lourdes, jusqu'à la perpétuité, provoquant la colère de la défense qui a exhorté la cour à ne pas condamner coûte que coûte les accusés vivants à la place des terroristes morts. 3 mois et demi de procès donc pour un verdict attendu dans quelques heures.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Entre 5 ans de prison et la réclusion criminelle à perpétuité ont été requis contre les 14 accusés.